RCF. Namur, quand c'était la guerre. Recueil de témoignages sur Namur et les Namurois durant la Seconde Guerre mondiale. Une émission de l'ASBL Namur Initiative Citoyenne, soutenue par la province de Namur dans le cadre de l'appel à projet Territoire de mémoire, par la ville de Namur et par RCF Sud-Belgique. Bonjour à toutes et à tous, ici Richard Dessart de l'ASBL Namur Initiative Citoyenne et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Namur, quand c'était la guerre. Alors cette semaine-ci, on va partir à la rencontre de Jean-Pierre Delforge. Jean-Pierre Delforge, il est né en 40, donc il est né pendant la guerre, puisqu'il est né au mois d'octobre. Alors évidemment, les souvenirs d'enfants ne sont pas forcément très précis, ou en tout cas moins précis que quand on a pu rencontrer Danilo, qui avait déjà une bonne vingtaine d'années au moment de la guerre. Mais néanmoins, il n'en reste pas moins intéressant. Et puis évidemment, il y a toujours tous les souvenirs qui ont été racontés par les parents et où on a su mettre en contexte les souvenirs d'enfance. Donc vous verrez que le témoignage ici de Monsieur Delforge est vraiment très très intéressant. Et puis en plus, c'est un bon conteur qui pose bien sa voix. Donc c'est très agréable aussi à écouter. Et puis aussi, l'avantage, c'est que ça nous amène à B, puisqu'il habitait à B, rue de l'Escalier, et c'est un coin dans lequel je ne me rappelle pas si on a déjà eu des témoignages à B, mais en tout cas, c'est pas le coin le plus fréquent pour nos témoignages. Donc, ça aussi l'avantage de partir dans ce coin-là de Namur. Alors, ici, vous le savez, pour le moment, on ne récolte plus de témoignages. Hein. Le projet était clôturé. Normalement, on devait récolter 40 témoignages. C'était l'engagement qu'on avait pris auprès de la province de Namur. Et ben, pour le moment, à l'heure où je vous parle, on en a déjà enregistré 43. Je vais encore partir à la rencontre de plusieurs témoins cette semaine. Et tout ça pour vous dire que, alors que la plupart des émissions se clôturent le 30 juin et que celle-ci aurait dû se clôturer le 30 juin, vous pourrez retrouver les témoignages de Namur en guerre, de nouveaux témoignages inédits, jusque la fin du mois d'août. Donc on a une saison un peu plus prolongée, vous aurez donc au total eu une année entière de témoignages. Allez, je vous laisse donc en compagnie de Jean-Pierre Delforge.
Le souvenir que j'ai de la guerre, pour moi, c'est mon propre parrain. Donc, une partie de ma famille habite la France. Et mon propre parrain, le frère aîné de papa, était agriculteur dans le sud de Paris. Il avait une bonne exploitation agricole. Il travaillait beaucoup. Enfin bon, je ne vais pas vous en raconter. Pour la petite histoire, il avait épousé la fille de Gray Guérin. C'était un artisan potier qui faisait toute espèce de pot avec de la terre cuite et qu'il exposait dans certains magasins de la région de Charleroi ou de la région de Namur pour se faire du fric. En fait, ma tante, l'épouse de mon parrain, donc Edgar, dont ils étaient mariés, et elle continuait à s'amuser à faire de la poterie à Rungis. C'est là qu'ils habitaient. Et cet homme, Edgar, alimentait comme fermier l'armée secrète en jambon, en mode de beurre, tout ce que en poulet, tout ce qu'une ferme peut cultiver comme avoir, je dirais. Et régulièrement, des soldats de l'armée secrète passaient chez Edgar pour récupérer une bonne cargaison pour nourrir les soldats. Et la chose est arrivée aux oreilles des Allemands. Tenez-vous bien, cet homme, qui était déjà père de 3-4 enfants, On l'a mis contre le mur de sa ferme et on l'a descendu au fusil. Ils étaient, je ne sais pas moi, 5, 6 ou 10. Et le brave Edgar est tombé là au pied de sa ferme et a été ramené chez ses parents, je ne sais pas trop comment, mais il était fort abîmé, pour qu'il soit enterré à Monceau-sur-Sambre, lieu où mes grands-parents paternels habitaient. Voilà. Donc, Edgar, le frère aîné de papa, était mon parrain. Donc, le souvenir que j'ai de la guerre, plus jamais sans. Hein. Mais, regardez, donc, les soldats allemands habitaient dans la ferme d'Edgar Delforge. Comment Edgar s'est fait dépister par ces troufions d'Allemands, de Boches, pardon, je ne sais pas. Et donc, ses locataires l'ont descendu. Et du coup, ma tante paternelle est rentrée dans sa famille à Bouffioux. Et de là, comme c'était une dame dévouée à l'art, elle est partie à Paris, où elle a loué un bateau sur les quais de la Seine, où elle a vécu toute sa vie. Voilà, ça c'est l'histoire de cette tante, que donc, je l'ai peut-être vue deux fois dans ma vie. Par contre, ses descendants, je les ai vus régulièrement. Les deux filles sont décédées, leur fils Baudouin habite maintenant Beaune. Il a eu une carrière formidable. Il était directeur des meuneries de Troyes. Troyes en Champagne. Hein.
Avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur. Quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, s'évanouit. Avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules à la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort le samedi soir. Quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien. L'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux. Son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va, on oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus.
Et j'avais à côté de moi, à côté de la propriété que mes parents louaient, je ne sais pas à qui, il y avait le domicile d'un fermier qui s'appelait Mauroy. Curieusement, je n'ai pas oublié son nom. Mauroy. Et je me souviens très bien de lui parce que c'était un type d'une gentillesse extrême et il m'a expliqué des tas de trucs sur ses bovidés, sur ses porcins, alors qu'on était en pleine guerre, hein. Et donc, voilà, on avait notamment une réserve de carbure de calcium, c'est ça. De carbure de calcium qui était destiné à faire fonctionner un éclairage intérieur. Vous savez que ça déploie une luminescence extraordinaire, hein. Bon, entre parenthèses, on mettait, pour rigoler, des comprimés de carbure de calcium dans les flaques d'eau et ça dégageait une fumée et une lumière extraordinaire. Ça, c'est un souvenir de gosse. De surcroît, mon père, qui n'était pas n'importe qui, avait, dans la propriété qu'il louait, créé un couloir en Ursus, ou je ne sais comment, un couloir en Ursus pour permettre aux poules d'aller du poulailler dans l'arrière-jardin où elles pouvaient picorer. Et ça nous procurait au moins 2 œufs par jour. Donc il y avait toujours des œufs dans le frigo.
Et ils faisaient quoi vos parents alors pendant la guerre ?
Ma mère était assistante sociale, voilà, et mon père était gynécologue. Et de par son métier, il a fait la connaissance d'un fermier dont le nom m'échappe, qui était installé, pas à Cesse, mais juste avant, à droite, peu importe. Et il s'était lié d'amitié, et papa, comme fils de fermier, pouvait donner des conseils utiles à ce monsieur qui gérait sa ferme très correctement. Mais mon père, il adorait ce contact, et donc, voilà. Donc, le fermier disait à papa, « Mais vous devez pulvériser vos pommiers. » Et papa disait au fermier, « Vous devez donner ça, cette vitamine-là à vos porcs et cette autre vitamine-là à vos bovidés. » Donc il y avait un échange de services, et de ça je me souviens très bien. Mais de nouveau, ce n'est pas la guerre. Mais vous me demandez les souvenirs que j'ai en tant que gamin durant la guerre, ce sont des souvenirs de mon enfance. Mon oncle Albert sur le parvis de la cathédrale, ça m'a effrayé, moi. On était tous en famille et un de mes oncles crie sur le parvis de la cathédrale « Les boches à la merde », quelque chose comme ça. Et il y avait des boches juste à côté de lui, qu'il n'avait pas vu, évidemment. Et donc, il a failli se faire enfermer, mais bon, peut-être parce que mon grand-père était une notoriété namuroise. Hop, il a été retiré, exfiltré, et il s'en est sorti pour la peur. Alors,
Vous étiez là, vous avez vu la scène.
Ah oui. Oh, quelle horreur.
Et il y avait un événement particulier à la cathédrale où...
C'était la messe du dimanche. Et mes parents aimaient se rendre à la messe à la cathédrale parce que une sœur de maman habitait juste à côté et ils aimaient se retrouver, c'est tout. Une dame qui était ma marraine de naissance, Suzanne, la femme d'Albert Servet, un politicien namurois très connu. La place Maurice Servet, c'est le père de mon oncle. Voilà. C'est une famille de gens aussi très dévoués à la cause publique. Et donc, PSC de nature, évidemment, ils ont un fils qui a mon âge, André-Marie, qui est passé au Parti Socialiste, et ce qui a provoqué au sein de la famille Servet un événement majeur du genre éclatement d'André-Marie, de la société, de la famille Servet. Ça a été un coup de tonnerre. Bon, parenthèse, je vous raconte tous mes souvenirs. On en revient à la guerre. Je vous ai raconté qu'au moment du bombardement par les Américains de la ville de Namur, allez me comprendre pourquoi, la serre, donc c'était au mois d'août, j'imagine. Hein.
Le 18 août.
Ouais. La serre de la maison rue de l'Escalier. La serre du jardin, qui était superbe parce qu'il y avait plein de raisins, des tomates par terre, enfin c'était une serre admirable, gérée par mon père. Et toutes les vitres de la serre ont éclaté en 1000 morceaux. Et il y avait des morceaux de carreaux dans la pelouse à 10 mètres. Hein. En fait, il y a un effet de résonance, je ne sais pas, par rapport au grognon. Parce qu'en fait, la rue de l'Escalier, c'est la descente vers la Meuse. Et le grognon est de l'autre côté. Bon, peu importe. Alors, mon Dieu, papa, conscient du risque qu'il y avait d'habiter la ville, en effet, jeunes mariés, ils habitaient 35 rue Pépin, je m'en souviens, et vu la proximité des événements militaires qui pouvaient nuire à la famille, il a déménagé toute sa famille, rue de l'Escalier, à côté de la ferme Mauroy. Bon, pourquoi pas, c'était très bien. C'était une mesure de prudence de mon paternel. Alors, oui. Donc, à la plage d'Amé, les avions nous passaient au-dessus du nez, et maman a décidé, hop, on rentre tous à la maison, vite rentrer dans la voiture, on ne traîne pas, il va se passer des problèmes. Bon, voilà. Et donc, aussitôt dit, aussitôt fait, et on s'est retrouvé. Attends. On s'est retrouvé à B sans délai.
On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre s'est réveillée. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre est arrivée. Moi, de mes 11 ans d'altitude, je découvrais éberlué des soldatesques fatigués qui ramenaient ma belgitude. Les hommes devenaient des hommes, les gars avalaient des soldats qui faisaient ceux qui ne s'en vont pas. Et les femmes s'accrochaient à leurs hommes. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre s'est réveillée. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre est arrivée. Et voilà que le printemps flambe, les canons passaient en chantant, et puis les voilà revenant, déjà la gueule entre les jambes. Quand on repassait en pleurant, nos grands
nos frères devenus vieillards, nos pères devenus brouillards. Et les femmes s'accrochaient aux enfants. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre s'est réveillée. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre est arrivée. Je découvris le réfugié. C'est un paysan qui se nomade. C'est un banlieusard qui s'évade d'une ville ouverte qui est fermée. Je découvris le refusé. C'est un armé que l'on désarme et qui doit faire chemin à pied. Une femme, les femmes s'accrochaient à leurs larmes. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre s'est réveillée. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre est arrivée. D'un ciel plus bleu qu'à l'habitude, ce mec 40 a salué quelques Allemands disciplinés qui écrasaient ma belgitude. L'honneur avait perdu patience et chaque bourg connut la crainte et chaque ville fut éteinte. Et les femmes s'accrochèrent au silence.
Quand Montgomery est rentré à Namur. Curieusement, pourquoi Montgomery fêtait à Namur? Je ne sais pas. Je vous ai expliqué que Albert Servet et ma marraine Suzanne Delforge donc, habitaient... Vous connaissez Namur?
Oui.
Juste en face du notaire... Il y avait une grande maison blanche, là, qui a été occupée par les Kerkhoffs tout un temps. Sur le coin de la rue Saint-Trin et de la rue du Collège.
D'accord, ok.
Ça, c'était une grande maison blanche, propriété de la famille du notaire en question.
Et donc, votre tante, elle habitait juste en face, alors, c'est ça?
Juste en face.
D'accord.
Vous voyez où était le magasin de... Dominique et Brigitte...
Basler. Oui, oui, oui.
Ben, juste à côté.
Ah oui, d'accord, ok.
Juste à côté. Et leur jardin communiquait avec le jardin de la résidence Pax, la Paix, Pax, P-A-X, qui était à l'époque... Non, dont l'étage était à l'époque... le rendez-vous du groupe politique PSC. Animation gigantesque, hein, parce qu'à l'époque, le PSC, c'était le parti majoritaire en Belgique. Hein. Donc,
c'est l'actuelle Brasserie François, alors, c'est ça? Non?
Exactement.
Voilà. Oui, c'est toujours là, les réunions. Hein.
C'est possible.
Oui.
Et donc... Le père d'Albert Servet, Maurice Servet, qui était un édile de la ville de Namur, qu'est-ce qu'il était, je ne sais pas, échevin ou quelque chose comme ça, Maurice Servet, avait organisé le retour du général de l'Alamein, Montgomery, c'est ça. C'est lui qui organisait le retour de Montgomery dans la ville de Namur. En effet, je ne sais trop. Et alors, il nous avait invités sur son balcon et toute la famille était sur le balcon d'Albert Servet pour voir le retour de El Alamein. Et ça, c'est un souvenir de l'après-guerre, évidemment. Et alors... Autre souvenir précis, devant ou derrière la voiture du général en question, un régiment de la gendarmerie nationale, dont les écuries se trouvaient à Namur, je ne sais plus où, donc se trouvait là pour protéger, ou pour faire honneur, ce serait plutôt pour faire honneur, un régiment d'une quarantaine de cavaliers, à leur tête le commandant Goffinet. Comment est-ce que je me souviens de ça ? D'abord, Goffinet, c'était inoubliable, hein, ce souvenir-là. Il y avait des banderoles, c'était pas ticket de parade comme à New York, hein, mais c'était quand même un événement. Et Goffinet était en tête du régiment à cheval des gendarmes de la région de Namur, je ne sais pas. Et un des fils du commandant Goffinet a épousé la jeune sœur de maman, Guylaine. Et pendant la guerre, figurez-vous qu'il a été pris par les Allemands. Ça, son histoire est relativement intéressante. Dramatique, mais intéressante. Donc, Charles, tel est son prénom. Charles a été extirpé, confisqué, détourné, enrôlé de force par les Allemands et emmené en Bavière, je ne peux plus dire l'endroit, où se trouvait l'usine BMW. Mais de ce temps-là, il n'y avait pas de voiture ou des voitures insignifiantes. Mais ce que BMW fabriquait d'abord et avant tout, c'était des moteurs des avions de la Luftwaffe. Et donc, Charles est rentré en Belgique après avoir fait 3 ou 4 ans de réglage des moteurs pour les chars allemands. Et illico, il est entré à la Sabena comme ingénieur moteur. Et donc, il a réglé les moteurs d'avion, peut-être pas tout de suite, je ne sais pas, hein. Mais Charles Goffinet a fait toute sa carrière chez Sabena. Et il est mort il y a 6 mois, quelque chose comme ça, à près de 100 ans.
Que souhaiteriez-vous que les jeunes retiennent de cette période qu'a été la Seconde Guerre mondiale ?
L'horreur, l'éclatement des familles, la mort de jeunes gars. Quand mon oncle a crié « Salut les Boches », quelque chose comme ça, sur le parvis de la cathédrale, tout le monde a eu peur qu'Albert n'allait se faire trucider. Hein. Et donc la guerre, c'est un peu ça. C'est la mobilisation des hommes et dans certaines tranches de la population, la mise des femmes au travail.
De manière générale, quel message souhaiteriez-vous adresser aux jeunes ?
Après la guerre 14, on a dit plus jamais ça dans tous les coins de l'Europe. Hein. 20 ans après, ça recommençait. Hein. C'est scandaleux. Je crois que l'unification de l'Europe a promu un réflexe immédiat d'entente cordiale ou même plus de collaboration ou de préservation des intérêts des voisins. Et il n'y aura plus de guerre en Europe grâce à cela. Je suis peut-être un grand naïf.
Et voilà donc pour le témoignage de Jean-Pierre Delforge qui habitait à B, rue de l'Escalier, et qui est né en octobre 40 avec ses souvenirs d'enfance et ce qui a pu lui être raconté par ses parents. Alors la semaine prochaine, on part à la rencontre d'une grande dame et d'une très très grande dame et j'ai vraiment beaucoup d'admiration et d'estime pour elle, c'est Mariette Delahaut. Marie Delahaut qui, évidemment, a connu la guerre. Elle est née en 1922. Elle habitait rue de la Pépinière et bah, je suis très content de la voir parce que je l'avais déjà rencontrée il y a quelques années pour des témoignages sur le bombardement du 18 août 44. Et donc ça m'a fait un très très grand plaisir de la voir à nouveau. Et donc c'est elle que vous pourrez écouter la semaine prochaine.